ceux qui ont reçu la révélation. C'est ma plus grande joie. C'était beau d'entendre quelqu'un qui, pendant toute sa vie, avait cherché la vérité, de savoir que j'étais tout proche. Et c'est le sens de cette session. se laisse prendre par des quantités de séduction. On aimerait de pouvoir comprendre ce que représente ce mystère de l'ascension pour la majorité du monde. 2000 ans. Ne supprime pas la sagesse philosophique. C'est la grandeur de Thomas d'Aquin, ça. De comprendre que Dieu, que Jésus a réhabilité l'homme dans toute sa grandeur et dans toute sa dignité. Et il faut les anges pour leur dire il reviendra dans la même gloire. Et nous sommes peut-être tout proches de ce retour, puisque le Saint-Père n'hésite pas de nous dire, il a dit dans une des dernières audiences publiques, continuez de vous préparer au grand jubilé de l'an 2000. Il vous avait déjà dit qu'on ne pouvait pas se préparer à ce grand jubilé de l'an 2000 sans une attitude eschatologique du retour du Christ. Et le redit explicitement maintenant. On ne peut pas nous préparer vraiment, profondément, à ce jubilé l'an 2000 sans attendre de notre espérance, sans attendre le retour du Christ. Et dans les actes des apôtres, les anges, aujourd'hui, nous disent qu'il reviendra dans cette gloire. C'est-à-dire que la mission du Fils bien-aimé n'est pas achevée. Il n'oublie pas. C'est par obéissance au Père qu'il est monté vers la croix. Qu'il a vécu cette résurrection. Ce retour vers le Père. Et ce retour vers le Père nous annonce ce retour vers nous, vers les hommes de bonne volonté, vers les hommes qu'il a tant aimé, ce retour dans la gloire. Le jubilé de l'an 2000 n'est plus très loin. Je dis ça, c'est parce que je crois que c'est peut-être la plus belle préparation si on est croyant, si on est catholique. Plus belle préparation au jubilé d'an 2000, de comprendre comment ce retour du Christ doit nous mettre dans cette attente, en comprenant que le Christ revient parce qu'il est notre sauveur. Donnez sa gloire. Et sa gloire, c'est d'être le Fils bien-aimé du Père, qui, avec le Père, spire l'amour, l'Esprit Saint. Jusqu'où Dieu nous a aimés, en faisant de nous des êtres spirituels, capables de découvrir l'existence de l'être de Dieu, découvrir l'existence appelle Dieu, et que ce Dieu est fidèle depuis la croix. Et qu'il ne cesse de nous appeler. Et que nous vivons par pure miséricorde. mourir dans ceux qui sont proches de lui, la capacité d'aimer. Voyez, c'est par là que nous pouvons découvrir ce qu'est l'amour d'amitié. sens de notre vie humaine. La première découverte de la finalité. Et on rejoint là une parole importante de la sagesse révélée. Dieu a créé l'homme pour l'homme. Une parole que notre pape actuel, qui a été professeur de philosophie, hein. Il n'y a pas beaucoup de papes qui ont été professeurs de philosophie. Mais je tiens à vous le rappeler. Parce que quand on a enseigné la philosophie toute sa vie, on est heureux de savoir qu'un pape l'a enseigné, et pas le moindre des papes. Je crois que c'est le rôle de tout philosophe aujourd'hui qui cherche la vérité, de rappeler que le choix d'un ami est quelque chose de très grand pour l'homme et qu'il reste fidèle à ce choix d'amitié. Pour montrer que ce n'est pas un mythe, mais que c'est vraiment une vérité et peut-être bien la première vérité, la première dans le sens de notre recherche, pas dans le sens ultime de la sagesse, mais il est notre créateur et qu'il a créé l'homme pour lui-même. Il l'a aimé d'un amour unique. Il n'a pas créé la petite souris. Il ne l'a pas créé directement. Un acte créateur pour la souris. C'est pas assez sérieux, hein. Pour le crapaud, non. Chercher la finalité de la souris et du rat. C'était pour réveiller le sage qui dort. La petite morsure du rat, on voit très bien ce qu'était la chambre d'un sage. Il y avait des souris et des rats. Et alors les réveiller quand ils dormaient trop longtemps. Alors, la finalité du philosophe aujourd'hui, du sage, c'est de rappeler à l'homme qu'il est capable d'aimer. Et c'est très utile de rappeler ça, parce que les sages aujourd'hui, quelquefois, oublient ça. Ils croient que la finalité était bonne au Moyen-Âge, mais ne signifie plus rien aujourd'hui. Et là, il se trompe. C'est en aimant, dans un choix existe pour aimer son semblable, et que s'il n'aime plus son semblable, l'homme deviendra pour l'homme un loup, et un loup affamé, capable de toutes les trahisons, capable de tous les meurtres. Parce que si l'homme n'aime plus son semblable, il deviendra pour lui une bête sauvage. Et il deviendra un tyran. S'il n'y a plus l'amitié entre les hommes, il y aura une terrible jalousie. Et il voudra dominer. On est en face de ce problème-là aujourd'hui. De grands sociologues l'ont montré et l'ont rappelé. Que s'il n'y a plus d'amitié, il y aura une tyrannie. Dont on est coupable dans la mesure où on ne fait pas tout l'effort possible d'aimer celui qui est à côté de nous. Et en l'aimant, lui rappeler sa noblesse. Parce que c'est l'amour de ceux qui sont proches de nous qui nous rappelle notre noblesse. Rappelez-vous Camus, c'est un exemple merveilleux de cela. Le cheminement de Camus et le dernier livre de Camus, qui est tellement éloquent. J'ai aimé d'aller à Oran pour découvrir Camus. Parce que c'est le cheminement d'un homme qui a vécu ce que beaucoup d'entre nous vivent et que progressivement il a découvert la noblesse de l'amitié. La noblesse de l'homme par l'amitié. Découvrir l'amour d'amitié aujourd'hui, je crois que c'est capital pour reprendre une authentique éthique. Nous ne pouvons plus avoir une éthique qui repose sur la loi. On est beaucoup trop capricieux. On est trop malin. Ce n'est que par l'amour d'amitié que nous pouvons redécouvrir notre responsabilité réciproque. Même s'il n'y a plus qu'un seul homme, le premier homme, un seul homme, responsable ceux que la Providence a mis proche de nous. On est responsable de les aimer et de les sauver en les aimant. C'est au cœur de l'éthique chrétienne. Et même si on n'est plus pas chrétien, on doit respecter ça, comme les anciens respectaient Socrate. On doit connaître que dans l'humanité, il y a eu quelqu'un qui a proclamé que la chose la plus grande, c'était l'amour d'amitié. Lui l'a proclamé divinement. Un philosophe peut recevoir ce message. Humainement, je peux aimer celui qui est proche de moi et lui rappeler sa dignité d'esprit, qu'il est capable d'aimer gratuitement et que dans un monde où l'économie amener le message de Thomas d'Aquin à une logique, oubliant la métaphysique. Et je crois que c'est cela, aujourd'hui, qu'une philosophie saine, respectant l'homme, doit toujours rappeler. Le philosophe n'est pas un logicien. Le philosophe doit respecter l'homme et rappeler la noblesse et la grandeur de l'homme. Rappeler qu'un ami, un vrai, un véritable ami, la dernière rencontre que j'ai eue avec le père Finet. était une femme. Qui a souffert. Et qui a aimé. Le père Vinet commençait. Hélas, ce qui peut arriver. J'ai demandé à mes amis de m'avertir. Quand je perdrai la tête, parce que c'est un mal courant dans notre monde d'aujourd'hui. Et le père Vinet, hélas, perdait un peu la tête. Sa dernière, je ne savais pas que c'était sa dernière retraite qu'il prêchait. Et j'étais poussé intérieurement. Amitié sommet de la philosophie grecque. C'est le mot qu'Aristote a inventé, entelecheia, qu'on traduit bêtement en français entelechie. Hein ? C'est pas un mot très beau, entelechie. Moi je peux pas le supporter. Gardons le mot grec dans toute sa force. Le sommet de toute la philosophie grecque pour Heidegger, c'est entelecheia. Entelos. Keia. Oh mais des traits. Dans l'avoir dans la fin. L'ayance.
D'amour pour nous donner le paraclet.
obsession. Et pour comprendre cela, vous voyez là, je suis tout près d'Heidegger. Hein. Donc c'est très moderne. Hein. C'est pas du tout comme certains disent, ah, vous retournez au Moyen-Âge. Mais si le Moyen-Âge était intelligent, j'accepte d'aller à Chartres. J'accepte d'aller à Sénanque. Et j'ai pas du tout l'impression de régresser quand je vais à Sénanque. Vous savez, quand Sénanque et que ces champs merveilleux, bleus, et l'architecture de Sénanque, l'architecture des cathédrales modernes d'Ivry, mettez, faites-le, Sénanque, Ivry, hein, regardez, qu'est-ce qui ennoblit le cœur de l'homme? Parce qu'il s'agit de ça, quoi. Il s'agit d'ennoblir le cœur de l'homme. Et si nous sommes les derniers à comprendre cet ennoblissement du cœur de l'homme, par l'amitié, par la contemplation. Autrement, on devient des robots. Et c'est ça qu'il faut, c'est ennoblir le cœur de l'homme. On ne peut être ennobli que quand on retourne à la source. Le retour à la source. Et c'est ça qui est grand. C'est pas, mais on ne méprise rien du tout quand on ennoblit le cœur de l'homme. Tous ceux qui sont dans la recherche, on les aime. Si la cathédrale d'Ivry est une recherche, très bien. C'est pas entelos dans la fin. C'est une recherche. Comment ennoblir la technique? Très bien. Si c'est possible. Ou bien si la technique me demande une amitié utilitaire. Mais je suis forcé d'aimer la technique utilitaire, un moyen de communication. Le TGV, un moyen de communication. Mais je ne vis pas dans le TGV. J'aime arriver au but sans trop de dégâts et de descendre. Et plus le TGV a été long, plus j'aime de retoucher le sol. Et je retouche le sol et je fais une expérience du sol, pieds nus, une expérience du sol. Tandis que le TGV, je n'ai pas fait une expérience du sol. La première expérience que j'ai fait du TGV, à ce moment-là, c'était possible. C'était dans la cabine du conducteur. Ça m'a appris beaucoup. Et je lui ai demandé, ça ne vous gêne pas que je vienne auprès de vous. Je voudrais voir comment le conducteur du TGV conduit le TGV. Quelle est la noblesse du conducteur du TGV? Est-ce qu'il a une lourde responsabilité? Alors il m'a appris. Il n'avait pas le droit de s'endormir une minute. Et que dès qu'il oublierait de secouer toujours un petit instrument, ça prouve qu'il s'endormait. Alors on le maintenait et immédiatement on le réveillerait. C'est extraordinaire. C'est toujours intéressant de regarder celui qui a la responsabilité. Et comment il l'a? Parce que ça fait comprendre le reste, c'est la tête. La tête du TGV, quand même, c'est important. Et on a besoin d'une super tête. C'est ça que j'ai remarqué. La tête du conducteur humaine ne suffit pas. Il faut faut une super tête. Parce qu'il n'a pas le droit de s'endormir un seul instant. C'est trop grave. Quand il est lancé à cette vitesse, c'est trop grave. On vit un monde extraordinaire. Mais pas commode à dépasser. Dépasse quand on la nie. Alors ça c'est terrible. On devient l'esclave. Il faut regarder la causalité efficiente, qui est prodigieuse. La technique prodigieuse. Tout ce qu'on a fait. Notre siècle est le siècle de la technique. J'espère qu'il est aussi le siècle de l'Assomption. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.